l'écoute de VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 13 juillet 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Les titres pour commencer, l'ex-préfet rwandais Laurent Boutibaruta, condamné en France à 20 ans de réclusion criminelle pour complicité dans le génocide de 1994. La Côte d'Ivoire demande au Mali la libération sans délai de ses 49 soldats arrêtés injustement, selon elle, dimanche à l'aéroport de Bamako. En RDC, la défense se retire du procès de François Béa, le monsieur sécurité du président Félix Tshisekedi. Israël espère un début de normalisation avec Riyad lors du voyage du président américain Joe Biden attendu aujourd'hui dans l'État hébreu. Ukraine, réunion sur les céréales ce mercredi en Turquie en présence de représentants de l'ONU. Le Sri Lanka déclare l'état d'urgence après la fuite du président Gotabaya Rajapaksa. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. La cour d'assises de Paris a condamné hier un ancien préfet rwandais, Laurent Boutibaruta, à 20 ans de réclusion criminelle pour complicité de génocide des Tutsis commis en 1994 dans sa préfecture de Gikongoro, dans le sud-ouest du Rwanda. Il a 10 jours pour faire appel de cette condamnation. De Paris, Jean Damascène, Namishimwe.
Il a fallu plus de 10 heures à la cour d'assises de Paris pour délibérer sur la culpabilité ou l'acquittement de Laurent Boutibaruta sur les crimes de génocide, complicité de génocide et de crimes contre l'humanité pour les faits survenus à l'école de Murambi, aux églises de Kibeho, Kianika et Kadoura, à la prison de Gikongoro ainsi que sur les barrages routiers dans cette préfecture de Gikongoro frontalière du Burundi. Après avoir passé en revue le vote des jurés sur tous les chefs d'accusation, le juge Jean-Marc Lavergne, président de la Cour, a fait savoir que la Cour a blanchi Boutibaruta des crimes de génocide à la paroisse de Kibeho et à la prison de Gikongoro. Dans d'autres lieux de massacre, la Cour l'a jugé coupable de complicité de génocide, ce qui lui a valu une peine de 20 ans d'emprisonnement. Après ce verdict, Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda, n'a pas caché sa déception.
Il y a une vérité judiciaire qui a été donnée. Ce n'est pas forcément celle qu'on aurait voulu. 20 ans de réclusion criminelle, alors on pourrait penser qu'à l'âge qu'il a, ça correspond presque à une réclusion criminelle à perpétuité, mais je dois dire qu'on va devoir se contenter de cette décision. On a d'autres combats à mener, on a d'autres procès en vue, voilà.
Apparemment non satisfaits de la condamnation de leur client, les avocats de Boutibaruta n'ont pas souhaité dire quoi que ce soit à la presse. Après Laurent Boutibaruta, un autre Rwandais accusé de génocide devra comparaître devant la cour d'assises de Paris à partir du 9 mai 2023. Jean Damascène Manichimwe à Paris pour VOA Afrique.
La Côte d'Ivoire a rejeté hier les accusations maliennes après l'arrestation de 49 militaires ivoiriens dimanche à l'aéroport international de Bamako. Le gouvernement ivoirien exige leur libération immédiate, John Linden.
Le Conseil national de sécurité réuni hier à Abidjan est revenu sur l'arrestation des 49 soldats ivoiriens à Bamako. Le Mali les accuse d'être des mercenaires. Abidjan affirme que ces soldats sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali en vertu d'une convention signée en juillet 2019 entre la Côte d'Ivoire et l'ONU sur un contrat de sécurisation et de soutien logistique. Depuis cette date, des militaires ivoiriens ont été présents à l'aéroport de Bamako et que sept contingents se sont déjà relayés sur ce site sans aucune difficulté. À l'arrivée dimanche du 8e contingent, une copie de leur ordre de mission a été transmise aux autorités aéroportières maliennes. Le ministère malien des Affaires étrangères et le chef d'état-major des armées maliennes ont reçu copie. Selon Abidjan, aucun soldat ivoirien n'était en possession d'une arme à sa descente d'avion et la Côte d'Ivoire demande donc aux autorités maliennes de libérer sans délai les militaires ivoiriens injustement arrêtés.
En République démocratique du Congo, les avocats de l'ancien conseiller spécial du président Félix Tshisekedi, chargé de la sécurité, François Béa, poursuivi pour complot contre le chef de l'État, se sont retirés de son procès devant la haute cour militaire qu'ils estiment partiale dans l'instruction de l'affaire. Michel-Joseph fait le point.
Selon maître John Kaboto, un porte-parole du collectif de la défense de M. Béa, l'instruction est trop bâclée et trop partiale. L'avocat indique que les demandes de liberté provisoire et d'autorisation d'accès aux soins médicaux sont intentionnellement laissées sans réponse par les juges. La Cour ne nous met pas en confiance, nous avons donc claqué la porte et déposé une requête en récusation des juges auprès du premier président de la Haute Cour militaire pour la désignation d'une composition. François Béa a été arrêté le 5 février par l'Agence nationale de renseignement qu'il a détenu en secret avant de le transférer 2 mois plus tard à la prison de Makala. Son procès a démarré le 3 juin. Il est poursuivi pour complot et offense contre la personne du chef de l'État, violation de consignes et incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline. Ces co-accusés cités dans le complot sont pour la plupart des colonels.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël dit espérer un début de normalisation des relations avec l'Arabie Saoudite à l'occasion de la visite du président américain Joe Biden. Le point avec Nani Talani.
Le président américain doit effectuer de mercredi à vendredi une visite en Israël et dans les territoires palestiniens, puis effectuer un vol direct inédit entre Israël et l'Arabie Saoudite, pays qui ne reconnaît pas officiellement l'existence de l'État hébreu. Il y a une relation délicate, fragile, nouvelle à plusieurs égards, et nous espérons et agissons de façon à ce qu'il s'agisse des premiers pas du début d'un processus de normalisation, a déclaré à la presse un responsable israélien. Nous ne pouvons pas imaginer le futur du Moyen-Orient sans normalisation des relations entre Israël et l'ensemble de ses voisins, incluant l'Arabie Saoudite, a ajouté ce responsable israélien. Israël, qui a signé des traités de paix avec l'Égypte et la Jordanie, deux voisins arabes, a normalisé ses relations en 2020 avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et en 2021 avec le Soudan dans le cadre des accords initiés par l'administration Trump. Et la même année, le premier ministre israélien d'alors, Benjamin Netanyahou, a, selon des sources israéliennes de l'époque, mené une visite en Arabie Saoudite pour y rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman.
Le Sri Lanka, en proie à une grave crise économique et politique, a déclaré l'état d'urgence ce mercredi pour faire face à la situation dans le pays, quelques heures après la fuite de son président Gotabaya Rajapaksa, a annoncé le bureau du Premier ministre. Des milliers de personnes se sont rassemblées devant ses services, incitant les forces de l'ordre à tirer des gaz lacrymogènes pour les empêcher d'envahir le bâtiment. La foule avait pris d'assaut la résidence officielle de M. Rajapaksa samedi, l'obligeant à fuir vers une base militaire avant de rejoindre les Maldives mercredi à bord d'un avion militaire. Selon des responsables, il avait promis de démissionner ce mercredi. Des délégations militaires des ministères turcs, russes et ukrainiens de la défense, ainsi qu'une délégation des Nations Unies, s'entretiennent ce mercredi à Istanbul sur la livraison en toute sécurité vers les marchés internationaux des céréales en attente dans les ports ukrainiens. C'est ce qu'a déclaré mardi le ministre turc de la Défense. Pour leur part, les États-Unis ont annoncé hier 1,7 milliard de dollars supplémentaires au titre de leur aide à l'Ukraine, ce qui portera à 4 milliards le montant total des sommes réglées par les Américains aux Ukrainiens depuis l'invasion russe le 24 février. le président Biden a promis en mai 7,5 milliards de dollars à Kiev. Et à Bruxelles, feu vert des ministres des Finances de l'Union européenne au versement d'un milliard d'euros à l'Ukraine, faisant passer à 2,2 milliards d'euros le total de l'assistance financière des 27 à ce pays depuis le début de la guerre. La Minute Éco, Nani Talani.
Yaoundé et la Banque africaine de développement viennent de lancer le programme de renforcement des mandats des institutions supérieures de contrôle des finances publiques en faveur du Cameroun, du Mali, du Niger, de la Centrafrique, du Tchad et du Togo. Financé pour 2,53 millions de dollars par la BAD, le programme veut contribuer à une harmonisation des normes, des outils et la professionnalisation d'un nombre accru d'experts comptables et de vérificateurs du secteur public. Le Rwanda et le Fonds d'assistance au secteur privé africain ont lancé un projet sur 2 ans pour stimuler la capacité industrielle du pays. D'un montant de 550 000 dollars, il va permettre de renforcer la capacité du personnel du ministère du Commerce et de l'Industrie et de ses agences, ainsi que du secteur rwandais du développement et du secteur privé à définir. Il vise aussi à mettre en œuvre et à évaluer les politiques industrielles et à recourir le moins possible à une expertise externe. Pour terminer, le projet PASEC, mis en œuvre aux îles Comores depuis 2013 et prévu pour s'achever en 2023, a permis de rétablir et d'améliorer le fonctionnement du réseau électrique dans le pays grâce à 2 financements de près de 20 millions de dollars du Fonds africain de développement. En outre, 72 kilomètres de lignes moyenne tension ont été réhabilités.
Merci Nanit. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Rui Vitória, nommé sélectionneur de l'Égypte.
Oui, l'ancien entraîneur portugais du Benfica Lisbonne succède à Ihab Galal, limogé en juin seulement 2 mois après sa prise de fonction. Pour mauvais résultat, Rui Vitória va diriger les Pharaons pendant les 4 prochaines années, annonce la Fédération égyptienne de football. À la tête du Benfica, où il a passé 4 saisons, de 2015 à 2019, Rui Vitória a décroché 3 titres de champion du Portugal. L'Égypte ne participera pas à la prochaine Coupe du Monde au Qatar, après avoir échoué à se qualifier face au Sénégal en mars dernier. À l'époque, les Pharaons étaient dirigés par un autre Portugais, Carlos Queiroz, ensuite remplacé pour une courte durée par Galal.
Wayne Rooney revient au DC United.
L'ancien joueur vedette de Manchester United revient en MLS, le championnat nord-américain, pour entraîner le DC United, annonce le club de Washington dans un communiqué. Wayne Rooney arrive en terrain connu puisqu'il a disputé 2 saisons sous le maillot de DC United en 2018 et 2019, inscrivant 23 buts en 48 matchs. L'ancien international anglais a quitté fin juin son poste d'entraîneur de Derby County en 2e division anglaise, sa première expérience en tant qu'entraîneur principal. DC United occupe actuellement l'avant-dernière place de la conférence Est avec 17 points marqués en 17 matchs. L'entraîneur argentin Hernán Losada a été écarté après la 6e journée de la saison pour mauvais résultats. L'intérim a été confié à Chad Hashton, mais les résultats ne suivent pas. L'équipe de Washington a perdu 7-0 vendredi dernier contre Philadelphia Union.
La star de l'athlétisme, Mo Farah, révèle sa vraie identité.
La plupart des gens me connaissent sous le nom de Mo Farah, mais ce n'est pas la réalité. J'ai été séparé de ma mère, amené au Royaume-Uni illégalement sous le nom d'un autre enfant, appelé Mohamed Farah, explique le quadruple champion olympique. À 39 ans, Mo Farah raconte avoir reçu ce nom d'une femme qui l'avait fait venir au Royaume-Uni, lui affirmant qu'il y rejoindrait des proches depuis Djibouti à l'âge de 9 ans. L'athlète, auteur du doublé 5 000-10 000 mètres aux Jeux olympiques de Londres en 2012 puis Rio en 2016, dévoile qu'il se nomme en réalité Hussein Abdi Haïne. Son père a été tué en Somalie lorsqu'il avait 4 ans. Sa mère et 2 frères vivent dans la région séparatiste du Somaliland. Il dit être né au Somaliland, dans le nord de la Somalie, et non à Mogadiscio, comme il avait fait savoir. Le champion olympique ne sera pas poursuivi au Royaume-Uni après ses révélations, a indiqué le ministère de l'Intérieur.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Face à la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi a expliqué les causes de la flambée des prix des denrées sur les marchés et les mesures prises par le gouvernement ivoirien pour faire face. Delphine Boïse, notre correspondante à Abidjan, nous donne davantage de détails.
En Côte d'Ivoire, le coût de la vie est extrêmement cher et la population n'arrive pas à contenir son désarroi.
Là, demander à l'État, s'il peut faire quelque chose pour nous, on a qu'à le faire dès maintenant. Parce qu'on souffre. Rien n'est plus facile.
Face à cette situation difficile engendrée par la guerre en Ukraine, le Premier ministre Patrick Achi est monté au créneau pour tenter de rassurer les populations. Et selon lui, le gouvernement ivoirien a pris à bras le corps la question du respect des prix plafonnés pour lutter contre la vie chère.
Depuis la survenue de la crise, c'est environ 35 000 contrôles qui ont été effectués. Et au cours de ces contrôles, c'est vrai, nous nous sommes rendus compte qu'il y a 2000 cas de non-respect du prix que nous avons constatés, donc de fraude, qui d'ailleurs ont été sanctionnés. D'ailleurs, le mois dernier, au mois de mai, on a dû faire payer environ 87 millions de francs d'amende. Donc, ces contrôles sont importants, ces contrôles sont renforcés, ces contrôles vont continuer, et ils vont s'intensifier également en milieu rural, sur l'ensemble du territoire national.
Pour autant, a-t-il convaincu l'Ivoirien moyen qui se bat au jour le jour pour rejoindre les deux bouts?
Bon, déjà, il faut dire que le fait de plafonner les prix est déjà une bonne chose. Ça prouve qu'ils prennent conscience des problèmes de la population et ils essaient de trouver des solutions.
Souvent, les prix sont plafonnés, mais ce n'est pas respecté.
Sa sortie était bonne parce qu'il faut dire qu'actuellement la vie est très très chère, c'est très difficile.
La pauvreté en Côte d'Ivoire, c'est seulement, soyons clairs, il ne faudrait pas qu'on se casse le visage. L'État fait son effort, mais c'est seulement la pauvreté, ça n'a pas reculé.
Delphine Boïse, Abidjan, VOA Afrique.
Au Cameroun, le gouvernement a demandé une aide alimentaire d'urgence pour plus de 2 millions de familles souffrant de la faim le long de ses frontières avec le Tchad et le Nigeria. Lors d'une réunion de crise tenue lundi à Yaoundé, les autorités ont imputé aux catastrophes naturelles, à l'insécurité et aux affrontements intercommunautaires une partie des causes de la pénurie alimentaire dans ce pays de 26,5 millions d'habitants. De Yaoundé, un reportage de Moki Edwin Kinzeka. Le récit est de Lionel Gahima.
Le ministre de l'Agriculture, Gabriel Mbarobé, affirme que les inondations et les éléphants ont dévasté plusieurs centaines d'hectares de terres agricoles, d'élevage, de volailles et de cultures, et tué un nombre inconnu de bovins, de moutons et de chèvres au cours des 6 derniers mois.
Il y a eu des attaques de chenilles légionnaires qui ont dévasté les récoltes. Il y a eu des attaques des oiseaux granivores et des criquets migrateurs. Et l'analyse que nous avons faite a révélé que nous avons 1% de la population qui est en situation de crise ou de famine. C'est environ 257 000 personnes. Nous avons à peu près 2 600 000 personnes qui sont sous pression, qui peuvent à tout moment basculer en situation de crise alimentaire. Et nous avons au total 6 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire.
S'exprimant à Yaoundé lundi au cours d'une réunion de crise, M. Mbairobé a déclaré que la plupart des civils pauvres menacés par l'insécurité alimentaire ont du mal à faire face à la hausse de prix causée par la guerre de la Russie en Ukraine. Le gouvernement camerounais attribue à la guerre une augmentation de 15 à 30% du prix des denrées alimentaires de base, notamment le blé, le maïs, le sorgho et le riz, largement consommés dans les régions situées le long de la frontière nord avec le Nigeria et le Tchad. Le Cameroun dépend de l'Ukraine pour 60% de ses importations de blé. La guerre a fait grimper le prix d'un sac de blé de 50 kilos de 35 à 60 dollars. Un montant que la majorité de personnes affamées ne peuvent se permettre, selon le gouvernement. Ephraim Chi possède une plantation de maïs à Pousse, une ville à la frontière avec le Tchad. Il dit que les conditions météorologiques imprévisibles et les changements climatiques font qu'il est difficile pour les agriculteurs de savoir quand planter.
Parfois, nous restons longtemps sans pluie et parfois les pluies deviennent intenses. Donc, les agriculteurs ne savent plus quand planter leur culture. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup de mauvais rendements maintenant. Les gens coupent beaucoup d'arbres et ces arbres régulent le climat. Lorsque le sol est si sec parce que nous avons abattu beaucoup d'arbres, les bassins, versants, collections d'eau s'assèchent.
Selon les autorités camerounaises, plus de 40 000 personnes, dont une majorité d'éleveurs, d'agriculteurs et de pêcheurs, prévoient toujours de retourner dans la région frontalière, bien qu'elle ait fui les affrontements sanglants de décembre 2021 pour les ressources en eau. Le gouvernement n'a pas dit de combien il avait besoin pour réduire la crise alimentaire, mais il est en négociation avec des organismes de financement et des pays amis. La semaine dernière, le gouvernement japonais a fait don de 1,2 million de dollars au programme alimentaire mondial pour aider les personnes vulnérables menacées par la faim au Cameroun, au Tchad et en République centrafricaine.
Le président américain Joe Biden arrive ce mercredi en Israël pour sa première visite au Moyen-Orient depuis son arrivée au pouvoir. Il va se rendre directement d'Israël en Arabie Saoudite, une décision que le dirigeant américain a qualifiée de symbolique. Israël espère que cette visite ouvrira une nouvelle ère diplomatique avec le royaume wahhabite. De Jérusalem, un reportage de Linda Gradstein, récit de Mohamed Humfa.
Les autorités israéliennes disent espérer que la visite du président Joe Biden sera une opportunité pour relancer les relations diplomatiques entre Israël et l'Arabie Saoudite. Yair Lapid, premier ministre israélien.
De Jérusalem, l'avion du président Joe Biden va s'envoler pour l'Arabie Saoudite et il va emporter avec lui un message de paix et d'espoir de notre part. Israël tend la main à tous les pays de la région et les appelle à nouer des liens avec nous, établir des relations avec nous.
Les observateurs israéliens pensent que si cette relation diplomatique ne devrait pas s'établir dans l'immédiat, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman évolue progressivement dans cette optique, parallèlement à d'autres réformes. C'est l'avis du professeur Jonathan Reinhold, spécialiste des relations israélo-américaines à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv.
He knows that Saudi Arabia is going to no longer be able to finance.
Il sait que l'argent du pétrole ne suffira bientôt plus à financer tous les besoins de l'Arabie Saoudite et qu'à l'horizon, son pays doit se moderniser. Et le pays qui réussit le mieux dans la région à le faire et qui est un partenaire économique naturel est Israël. Et également, stratégiquement, le seul pays qui s'est avéré capable de contenir l'Iran en Syrie et dans la région est Israël. Les Saoudiens respectent cela.
Le président Biden devrait annoncer la mise sur pied d'un groupe de défense régionale comprenant Israël et l'Arabie Saoudite, concrétisant une initiative évoquée lors de récentes réunions du sommet entre Israël et ses partenaires arabes de la région. Les Palestiniens, quant à eux, ne seront pas invités à rejoindre ces alliances régionales auxquelles ils sont farouchement opposés. Bien que le président Biden va rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas lors de cette visite au Moyen-Orient, Mohamed Chtaye, premier ministre palestinien.
Les réunions de normalisation avec le monde arabe sans mettre fin à l'occupation ne sont qu'une illusion, un mirage et un cadeau gratuit pour Israël.
Lors de son escale en Arabie Saoudite, le président Biden va chercher à réchauffer les relations qui ont pris un coup après le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018 en Turquie. Joe Biden devrait aussi encourager une augmentation de la production de pétrole de l'OPEP pour remplacer le pétrole russe. Najat Al-Assid, journaliste américano-saoudienne.
Si les Saoudiens perçoivent ce voyage comme une simple visite pour intimer l'ordre aux Saoudiens d'augmenter la production de pétrole, je vous dis que cela ne marchera pas car il y a beaucoup de choses à discuter avant cela. Pour l'essentiel, la visite doit être axée sur la sécurité nationale, la sécurité des Saoudiens face à la menace iranienne.
En effet, la menace iranienne est un autre point de consensus entre Israël et l'Arabie Saoudite.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
Les États-Unis toujours sous le choc après une récente vague de fusillades de masse. Certaines technologies se concentrent sur la manière de prévenir les pertes. Julie Tabo a rencontré quelques entrepreneurs qui ont développé des technologies de détection d'armes à feu. Son reportage est repris ici par Yacouba Ouedraogo.
Boum, boum. J'ai entendu des coups de fusil.
Je vois des cadavres au sol.
La violence armée aux États-Unis a atteint des proportions épidémiques.
Je suis vraiment terrifié.
Et beaucoup d'Américains en ont marre.
Nous sommes furieux. Nous sommes dégoûtés.
Le pays est divisé sur le port et le contrôle des armes à feu. Les récentes fusillades de masse dans une école primaire, un supermarché et lors d'un défilé communautaire pendant la fête nationale ont mis en lumière certaines technologies contribuant à réduire les décès par armes à feu. Mike Lehiff est le PDG de Zero Ice, une société d'analyse vidéo qui vend des logiciels avec intelligence artificielle, travaillant avec les caméras de sécurité existantes afin de détecter une arme.
C'était peu de temps après la fusillade de l'école à Parkland en 2018. L'école de ma fille a commencé à faire des exercices de tir actif. Elle est rentrée à la maison, bouleversée, et nous avons dit que ça n'était assez, qu'il fallait faire quelque chose.
L'incident a fait germer une idée.
J'ai vu des gens utiliser la technologie de reconnaissance faciale et je me suis dit, et si nous utilisons les caméras de sécurité existantes pour détecter les armes?
La société de Lehiff, Zero Ice, a développé un logiciel de détection d'armes à feu qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser les données des caméras de sécurité existantes afin de rechercher une arme à feu.
Cette alerte est envoyée à notre centre d'opération Zero Ice, ici hors de Philadelphie, qui est doté d'anciens combattants 24 heures sur 24. Puis ils la regardent et disent, est-ce vraiment une arme à feu? Et si c'est une arme à feu, cette alerte est transmise à nos clients et va simultanément à la police.
Ils ont alors une photo du tireur potentiel, du type d'arme qu'il détient et de l'endroit où il se trouve.
Ce type d'information exploitable est essentiel dans ces situations pour réduire les temps de riposte.
L'école secondaire régionale de Rokankas Valley, dans le New Jersey, a été la première à implémenter le logiciel. Christopher Heilig est l'intendant de cette école.
Lorsque nous avons eu un exercice de tir actif avec cette technologie, ça nous a vraiment ouvert les yeux sur la valeur de Zero Eyes.
L'école a organisé un exercice de tir actif avec la technologie. Cela les a conduits à la personne armée en 90 secondes environ, la moitié du temps qu'il faut dans le même exercice sans technologie.
Dans ces situations, il s'agit de minimiser le temps, ce qui minimise les pertes.
Pour les grands lieux publics, certains se sont tournés vers Evolve Technology, qui a des scanners qui utilisent des capteurs à ondes millimétriques et d'autres technologies. Ils peuvent détecter rapidement les armes à feu et autres, permettant à des milliers de personnes d'entrer dans un espace avec un minimum de perturbations. Peter George est le PDG d'Evolve Technology.
Nous utilisons une technologie de pointe comme l'intelligence artificielle pour trouver et faire la distinction entre un téléphone et une arme à feu. Par exemple, les choses que vous transportez normalement et quelque chose qui représente une menace réelle.
Jusqu'ici, il y a eu plus de 300 fusillades de masse aux États-Unis. Bien que ces technologies ne puissent pas garantir la prévention d'autres fusillades, elles font partie des efforts visant à assurer la sécurité dans les espaces publics.
Participez à notre magazine interactif À votre avis, du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde de Michel Joseph et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de